Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Laurie Vachon. Nouvelle série consacrée à l'aviation cette semaine alors que s'ouvre aujourd'hui le Salon du Bourget. Demain, nous parlerons de la bataille industrielle entre les deux géants de l'aviation mondiale, Boeing et Airbus. Mercredi, nous nous pencherons sur le coût écologique de l'avion alors que certains députés appellent à la fermeture d'un certain nombre de vols intérieurs. Jeudi, nous atterrirons en douceur pour parler des aéroports. Mais pour commencer, place à la sécurité du Rio-Paris au 737 MAX. Les crashs de la sécurité aérienne, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Au large de l'île de Java, une gigantesque étendue de débris. C'est tout ce qu'il reste de l'avion qui s'est abîmé en mer ce matin.
Nous avons eu une information sur un problème technique, mais nous avons résolu ce problème conformément à la procédure. Si l'avion avait encore un problème, il n'aurait jamais pu redécoller.
Il est 8h38 heure locale lorsqu'un Boeing 737 décolle d'Addis Abeba en Éthiopie, direction Nairobi. 6 minutes plus tard, l'avion disparaît des radars.
Il s'agissait d'un tout nouvel avion sans remarque technique particulière et conduit par des pilotes expérimentés. Pour le moment, il n'y a aucune cause qui peut expliquer l'accident.
Nous nous excusons pour ce qu'il s'est passé. Nous sommes désolés pour les vies perdues dans ces deux accidents. Nous sommes désolés pour les conséquences sur les familles et les êtres chers. Et ça ne changera jamais, ça restera gravé. Je peux vous dire que ça me touche directement en tant que PDG de cette entreprise.
Voilà, on entendait à l'instant les excuses de Dennis Muhlenberg, le PDG de Boeing sur la chaîne CBS il y a quelques jours. Il y a quelques mois, le Boeing 737 MAX a provoqué deux drames coup sur coup. Octobre 2018, d'abord avec un appareil appartenant à la compagnie Lion Air à destination de l'Indonésie qui a entraîné dans la mer 189 personnes. Puis quelques semaines plus tard, le même modèle s'écrasait en Éthiopie faisant 157 morts. Par ailleurs, il y a 10 ans maintenant, le 1er juin 2009, le vol AF-447 au départ de Rio pour rejoindre Paris s'abîmait dans l'océan Atlantique près de 4 heures après son décollage, tuant 228 passagers, le crash le plus meurtrier de l'avionneur Airbus. Ces accidents nous invitent à nous interroger sur la sécurité aérienne. Comment l'améliorer? Quelle responsabilité pour les compagnies, pour les pilotes, mais aussi pour les avionneurs? Comment se déroulent les enquêtes? Les agences censées garantir la certification des appareils sont-elles impartiales, indépendantes ou peuvent-elles subir des pressions politiques? Compte tenu peut-être des enjeux économiques qu'il y a derrière. Pour évoquer toutes ces questions, deux invités, Jean-Paul Troidec, d'abord bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes membre de l'Académie de l'air et de l'espace, ancien directeur du Bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, pour la sécurité de l'aviation civile, la DGAC. Vous l'avez été de 2009 à 2014. Et nous allons revenir, bien sûr, sur le Rio-Paris. Vous étiez en poste à ce moment-là. Également avec nous, Gérard Felzer. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes consultant en aéronautique, ancien pilote de ligne. Et puis, vous êtes producteur sur France Info de cette émission Transportez-nous le samedi 17h25 et rediffusion
18h50, transportez-moi.
Merci, transportez-moi, merci d'être avec nous ce matin. Jean-Paul Troidec, on va parler du Boeing 737 MAX et des déboires auxquels il doit faire face aujourd'hui. Mais d'abord, de façon un peu générale, quand on regarde les statistiques d'accidents d'avions et de passagers tués, ce que j'ai fait pour préparer cette émission, on voit que les choses s'améliorent. 2017, il y a eu 101 accidents, 399 morts, c'était 1116 il y a 10 ans, c'était 1147 il y a 20 ans. Et globalement, les accidents sont en baisse, même si évidemment il y a des variations d'année en année, mais quand on regarde le taux de passagers tués par million de passagers kilomètres par an, là aussi ça baisse. Donc on peut dire que globalement, la sécurité s'améliore.
Globalement, la sécurité du transport aérien s'améliore au fil du temps et les progrès sont tout à fait considérables. En 40 ans, on a plus que multiplié par 10 le niveau de sécurité. Alors évidemment, c'est un effort constant à la fois des constructeurs, tout d'abord, qui proposent des avions de plus en plus sûrs. C'est un effort des compagnies aériennes qui mettent en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité, qui forment leurs pilotes. C'est également un effort des autorités qui certifient les avions et bien entendu un rôle important qui est celui des enquêtes accidents qui permettent à chaque fois de tirer tirer des leçons et de faire des recommandations en matière de sécurité.
Gérard Felzer, les choses vont dans le bon sens, même si, évidemment, un accident, c'est toujours un accident de trop, bien sûr.
En fait, on regarde souvent le nombre de morts, mais c'est pas significatif. Il y en a peu, et heureusement. C'est plutôt le nombre d'incidents qui est important. Et là, il y en a beaucoup, parce qu'il y a du plus petit anodin, mais qui peut devenir grave. Et il y a des rapports qui sont faits à chaque fois, et il y a une distribution de l'information entre toutes les compagnies aériennes, souvent faite d'ailleurs par les constructeurs, où tous les incidents sont répertoriés. Et puis il y a une confiance qui s'est établie, notamment par le personnel navigant. Quand vous faites une erreur, vous la signalez, et on vous garantit qu'on ne vous poursuivra pas pour ça. Et cette transparence, eh ben, elle a beaucoup aidé, parce que on profite des expériences des autres.
Jean-Paul Troadec, les 737 MAX maintenant sont immobilisés depuis la mi-mars. Les compagnies américaines espéraient une reprise des vols cet été. Il se trouve qu'ils vont être contraints a priori de rester au sol au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré un responsable de l'agence de l'aviation civile américaine. Il n'est pas possible de donner une date précise car les travaux pour sécuriser l'avion sont encore en cours. Voilà ce qu'a déclaré Ali Bahrami, qui est l'administrateur adjoint de l'autorité américaine de réglementation pour la sécurité aérienne. C'est une bonne décision. Il n'est absolument pas question pour le moment de relancer ces vols.
Alors, à la suite de ces deux accidents, et en particulier du dernier accident, il y a énormément une remise en cause du système qui est soupçonné d'avoir été à l'origine de ces accidents. Je dis soupçonné parce que il y a deux enquêtes en cours, donc on ne connaît pas forcément le détail des circonstances. Néanmoins, ce système qui s'appelle le MCAS est supposé être à l'origine des accidents.
Alors, bien entendu, c'est un système anti-décrochage pour les auditeurs.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des circonstances particulières où l'avion est susceptible de décrocher, donc c'est un système qui automatiquement remet l'avion en quelque sorte en ligne de vol. Alors ce système a fait l'objet de beaucoup de critiques. La première critique, c'est qu'il a été mis en service sans que les équipages en soient informés. C'est déjà assez étonnant parce que on a estimé que le système au fond était assez transparent pour que les pilotes n'aient pas besoin de connaître son existence. Alors c'est un système dont la conception est certainement très très discutable et qui, j'estime, et la plupart des gens estiment, qui n'aurait pas dû être certifié tel quel. Donc Boeing actuellement à étudier un système amélioré avec aussi un certain ensemble de programmes de formation ou d'information pour les équipages, et c'est ce nouveau principe qui est qui a été proposé aux autorités qui l'examinent, alors aux autorités américaines d'abord et puis aux autorités de l'ensemble des autres pays. Voilà, on en est là actuellement. Les discussions se poursuivent. Il n'y a pas de date pour la remise en service. Alors pourquoi ? Parce que il faut non seulement que le système soit validé dans son principe par les autorités, qu'il soit accepté bien entendu aussi par les compagnies aériennes, et puis se pose aussi la question de la formation des équipages. Est-ce qu'il faut modifier ou construire de nouveaux simulateurs pour représenter ce système ? Je crois que la question n'est pas encore complètement tranchée. Après ça, il y aura la remise en service technique de tous ces avions qui sont sur des parkings. Alors probablement, ceci nous amène au mieux à la fin de l'année. En tout cas, ça veut dire que l'été sera difficile pour beaucoup de compagnies aériennes qui auront du mal à faire face au pic de la demande.
Gérard Felzer, l'agence de l'aviation civile américaine, elle est l'objet d'un certain nombre de critiques, on va y revenir, mais elle fait aussi l'objet de beaucoup de pression de la part des compagnies américaines qui voudraient bien que cet avion reparte le plus vite possible. Comment comprendre cette décision de laisser pour l'instant au sol ces appareils ? Est-ce que c'est une manière pour elle, d'autant que, une fois encore, il y a un certain nombre de choses dans les dispositifs qui sont critiquées. Est-ce que c'est une manière pour elle de reprendre la main, peut-être, et en particulier sur Boeing ?
Oui, c'est vrai qu'on a constaté une espèce de consanguinité entre l'aviation civile américaine et le constructeur, premier constructeur Boeing. Ça a été dommageable, en effet. Ils ont pris pour argent comptant ce que leur proposait Boeing. Donc il y a une espèce de confiance qui s'est établie au fur et à mesure des années en disant, moi, si Boeing, qui est suffisamment costaud, qui a vraiment intérêt à mettre la sécurité en avant, on peut lui faire confiance. Donc ils se sont aperçus que ça, c'était dommageable pour leur image.
Du coup, qu'on pouvait pas lui faire confiance.
Et du coup, aujourd'hui, ils en rajoutent à l'envers pour essayer de y rétropédaler, si j'ose dire. Donc, Il y a cette question-là. Et puis, la question de fond, faut savoir ce qui s'est passé, c'est que on est dans les automatismes de plus en plus, au fur et à mesure des années, mais des automatismes qui aident le pilote et qui ne le remplacent pas. Or là, c'est quand même une première, parce que le système outrepasse le pilote, c'est-à-dire que quand il y a des sondes qui sont à l'avant de l'avion, c'est des espèces de palettes qui donnent l'incidence de l'avion, qui donnent un avertissement comme quoi il est pas loin du décrochage. Il envoie une information directement à la gouverne de profondeur de l'avion, à l'arrière, pour mettre l'avion en piqué, c'est-à-dire le sauvegarder. Sauf que lorsque l'information est mauvaise, eh bien, il met à piquer et il prévient pas le pilote qui, lui, reprend les commandes. Il faut voir que dans le Lion Air, par exemple, les pilotes se sont pris à 17 fois pour essayer de rétablir l'avion, reprendre la main. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une grave erreur, me semble-t-il, de Boeing, qui ne sait pas comment s'excuser d'ailleurs par rapport à ça.
Ça, c'est un problème de logiciel fourni par Boeing.
Alors, il y a... Alors là, l'enquête est en cours, il sera certainement mieux placé que moi pour en parler, mais en tous les cas, il y a eu une mauvaise information, et comme il n'y avait que deux sondes, je l'interprète comme ça, mais peut-être pas que ça, alors que Airbus a trois sondes, pour lever le doute, ça n'a pas informé le pilote. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que les pilotes n'étaient pas informés, et ils ont appliqué une procédure qu'ils connaissaient, la seule qu'on leur ait donnée. Et ça, c'est gravissime. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'avenir, on se prépare au monopilote, c'est-à-dire un seul pilote à bord, voire pas de pilote du tout. Et c'est ça que ça veut dire peut-être aussi en fond.
J'entends deux informations, Jean-Paul Troidec, là-dedans. Un problème dans le logiciel et peut-être aussi dans les informations fournies par Boeing, ou pas d'ailleurs. Et deux, un problème de formation des pilotes, ou en tout cas de dispositifs par lesquels on distribue un peu la responsabilité, les rôles, une fois le logiciel, une fois le pilote humain. Enfin, il y a deux choses là, Jean-Paul Troidec.
Alors, c'est pas vraiment un problème de logiciel, en fait. Mais il se trouve que le système repose sur une information donnée par un seul capteur. Il n'y a pas de levée de doute, c'est-à-dire que rien ne permet de savoir si l'information donnée par le capteur est bonne ou pas. Donc un seul capteur.
On ne peut pas le vérifier avec un autre capteur.
Alors il faut le vérifier au moins avec un autre capteur, mais comme l'a dit à l'instant Gérard Felzer, c'est mieux d'avoir deux autres capteurs. C'est-à-dire à ce moment-là, on fait un vote. C'est-à-dire s'il y a deux qui donnent une certaine information et l'autre une autre information, on va faire confiance aux deux qui donnent l'information. Là, il y a un seul capteur. En plus, ce capteur a donné une information, mais une information complètement aberrante et qui n'était même pas possible d'obtenir par les lois de la physique. Donc on n'avait même pas la possibilité d'écarter une information complètement aberrante. Donc on voit bien que dès le départ, il y a un défaut de conception même du système. Mmh. Alors ensuite, on peut supposer que un pilote doit avoir les moyens et les procédures et l'information qui lui permet de faire face à une panne. Mais comme il n'était pas informé de l'existence même de ce système, ils se sont raccrochés à des procédures existantes, mais qui n'étaient pas les bonnes procédures. Mmh. Et c'est ce qui explique probablement, encore une fois je suis prudent, mais probablement les deux accidents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mettre en place un système et un automatisme sans que le pilote ait la connaissance du fonctionnement de cet automatisme, ça c'est une erreur profonde.
Alors il y a eu une audition il y a quelques jours au Congrès de l'administrateur par intérim de l'agence de l'aviation civile américaine, c'est un homme qui s'appelle Daniel Elwell, et donc cette agence fédérale a été pointée du doigt. La Federal Aviation Administration a un problème de crédibilité, la FAA doit résoudre son problème de crédibilité. Voilà ce qu'a lancé un élu démocrate, Rick Larsen, à l'ouverture de l'audition. C'est quoi ce problème de crédibilité de l'agence de l'aviation civile américaine ?
Bon, globalement, il faut reconnaître que la sécurité du transport aérien aux États-Unis est la meilleure du monde, avec celle de l'Europe. Donc, on peut considérer que le système aérien et l'action de la FAA, globalement, sont tout à fait satisfaisantes.
C'est pas ce que considère cet élu démocrate.
Alors, il se trouve qu'en l'occurrence, dans ce cas particulier, il y a eu probablement, de la part des autorités américaines, de la FAA, donc une surconfiance faite à Boeing. Alors, ce que les différentes enquêtes, parce que des enquêtes, il y en a plusieurs. Hein. En cours, il y en a au moins trois aux États-Unis, plus les enquêtes accidents. Ce qu'elle mettra peut-être en relief aussi, ça a été quel est le degré d'information donné par Boeing à la FAA. Est-ce que Boeing a donné à la FAA toutes les informations et les bonnes informations. Est-ce qu'il n'a pas modifié son système sans en prévenir la FAA? Voilà les questions auxquelles il faut répondre et les interrogations qui font que peut-être la responsabilité de la FAA n'est pas tout à fait aussi importante que ce qu'on peut penser.
Il y a la transmission des informations de la part de Boeing, mais il y a aussi peut-être un problème plus fondamental qui est qu'il y a un certain nombre de processus de certification qui sont confiés directement à l'avionneur Gérard Felser. Est-ce que ça, c'est normal et est-ce qu'il ne faut pas sortir de ce système où au fond l'avionneur est à la fois jugé parti? Évidemment qu'il va avoir envie de certifier ses appareils puisque c'est lui qui fait les contrôles. Est-ce qu'il ne faut pas une indépendance totale de cette agence civile américaine?
Alors, il y a une question de moyens aussi.
Ouais, hein, c'est-à-dire
qu'il faudrait une armée d'ingénieurs pour pouvoir passer par-dessus les ingénieurs de Boeing, par exemple.
L'agence civile américaine dit qu'il nous faudrait 10 000 salariés en plus.
Oui, c'est pas impossible.
Et ça nous coûterait 1,8 milliard de dollars. Voilà ce qu'a annoncé très récemment l'agence américaine.
Oui, ça m'étonne qu'à moitié. Mais en fait, c'est le prix peut-être à payer pour avoir une sécurité optimum. Et, je jure, le zéro accident, ça n'existera jamais. De toute façon, non. là-dessus, ce qui est difficilement pardonnable à Boeing, c'est que il y a des pilotes qui ont prévenu Boeing qu'ils doutaient justement d'un système qu'ils ne connaissaient pas. Boeing s'est dit, on fera une information, c'est pas urgent. Boum, arrive le premier accident Lion Air, et là, remise au pot, le syndicat des pilotes de ligne américains vont voir Boeing en disant, attendez, l'accident qui a eu lieu, c'est inadmissible. On vous l'avait dit, et en plus, on réclame un changement de paradigme et aussi une information, voire une formation des pilotes. Boeing s'est dit, on va le faire, oui, vous avez peut-être raison, et on va prendre du temps. On va pas remettre en cause cet avion qui est le meilleur avion du monde, etc., etc.
Et boum, deuxième accident.
Et on est présent, on accélère les procédures pour concurrencer notamment Airbus. On est dans une bataille commerciale. Faut pas oublier que dans le temps, il y avait les ingénieurs qui faisaient les avions. Aujourd'hui, c'est les financiers qui font les avions. Donc, on a changé de méthode. Et donc, arrive ce deuxième accident qui aurait pu être évité pour le coup. Et c'est ça qui est rageant, et notamment pour les familles, c'est terrible de dire que ça aurait pu être évité. Et là, on a quelque chose qui s'est passé. Les aviations civiles, dont la DGAC en France, a dit, nous, tant que c'est pas éclairci, on arrête, on interdit les avions. Le dernier qui a continué à faire voler les avions, malgré tout, ça a été l'administration américaine a dit, nous, pour l'instant, il n'y a pas urgence, on va continuer à faire voler les avions. D'ailleurs, Trump lui-même est intervenu, comme il fait d'habitude, en disant, c'est le meilleur avion du monde, on peut continuer, on va résoudre le problème. Sauf que, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, c'est que les passagers ne voulaient plus monter dedans. Voire des pilotes ne voulaient plus monter dedans. Donc, ils ont fait machine arrière en disant, on est là pour protéger le citoyen américain, donc on les interdit. Mais bien après tout le monde. Je crois que c'est les Chinois, d'ailleurs, qui ont commencé à interdire l'avion.
Jean-Paul Troidec, sur cette question du système de certification où là peut-être il y a des choses à voir et redonner plus de moyens peut-être à l'agence fédérale américaine pour justement s'assurer l'ensemble du processus de certification.
Alors il faut voir que la question se pose pour l'ensemble des autorités mondiales, pas seulement les autorités américaines. Il y a même une problématique en Europe avec l'agence européenne. Moi, je ne crois pas que ça soit tellement une question de moyens. C'est pas le fait de multiplier les moyens des autorités de certification qui va résoudre le problème, parce que elles ne pourront pas avoir le même degré de connaissance intime des matériels, des équipements qu'ont les constructeurs. Je pense que c'est plutôt je pense pas qu'on puisse remettre en question fondamentalement le principe de délégation. C'est plutôt la façon dont ce principe est réalisé. Il est clair qu'il y a un certain nombre d'essais, de calculs qui ne peuvent être faits par le constructeur. Encore faut-il que les autorités aient les moyens de vérifier que ces calculs sont corrects, et également que les procédures d'échange entre les constructeurs et les autorités soient bien établies. Alors, bien entendu, derrière tout ça, il y a une question de confiance. Cette confiance, elle a été sérieusement ébranlée, en l'occurrence. Et je ne sais pas comment elle pourra être rétablie facilement. Donc, ne, je ne pense pas qu'on doive multiplier les moyens des autorités excessivement, en tout cas. Par contre, faire en sorte que les relations entre le constructeur et puis les autorités reposent sur des bases et des procédures bien établies et une relation de confiance, c'est ce qu'il faut, je pense, obtenir.
Je crois qu'il y aurait, il y aura un changement. Il y a un avant et après ces accidents. C'est-à-dire que il y aura des relations, comme dit Jean-Paul Troidec, des relations qui vont changer entre les administrations et les constructeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'en effet...
Il n'y aura plus cette forme de tolérance vis-à-vis de Boeing.
Il y aura plus de confiance réciproque. C'est indispensable parce que effectivement, l'aviation civile, la FAA, peut pas tout faire à la place de Boeing. Mmh. Donc, il y a un moment, il faut savoir échanger, avoir plus de transparence. Et je pense que le chemin est pris par rapport à ça. Ça a été tellement un traumatisme, et pour les deux, hein, pour Boeing évidemment et pour la FAA, qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de changer leur type de relation.
Et vous pensez que Boeing est disposé justement à donner davantage d'informations? Parce que jusqu'ici, quand on le critique justement pour ce manque d'informations, de coopération, Boeing répond « Oui, mais attention, les informations dont on parle, c'est extrêmement confidentiel. Si on divulgue ça à nos concurrents, ça peut être mauvais pour nous. » C'est ça l'argument avancé par Boeing. Vous pensez que Boeing a compris cette fois et qu'il va transmettre l'ensemble des informations nécessaires à l'agence américaine?
Moi, je pense pas que ce soit un argument très très sérieux, parce que les autorités sont muettes comme des tombes, et comme des carpes plutôt, et ne divulguent pas à la concurrence des informations qui leur ont été données par un constructeur. Non, je pense pas qu'on puisse retenir ce
non argument. Recevable. Oui. Gérard Felser.
Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a, c'est un billard à trois bandes, parce que il y a les relations entre la FAA et Boeing, mais il y a aussi la relation des autres aviations civiles par rapport à la FAA. Aujourd'hui, Jean-Paul Troidec me le dira, mais est-ce que on signe, une fois que l'agence a approuvé un avion, il doit y avoir l'EASA pour l'Europe qui doit l'approuver également, est-ce qu'ils font totalement confiance à la FAA, ou est-ce qu'ils font des compléments d'enquête, ça c'est aussi des choses à éclaircir.
Ah, ça c'est une bonne question, Jean-Paul Troidec, parce qu'effectivement, il faut bien comprendre que ces processus de certification, ils changent. En Europe, on n'a pas les mêmes que ceux qui existent aux États-Unis. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous donner quelques éléments pour savoir en quoi justement ça change? Est-ce que nous, en Europe, on peut avoir ce problème d'un peu de collusion entre l'agence certificatrice, je ne sais pas laquelle c'est, et l'avionneur? Ou est-ce que en la matière, on a une garantie d'indépendance bien meilleure que ce qu'on trouve aux États-Unis?
L'agence européenne donc est responsable de la certification de tous les matériels produits en Europe. Elle est probablement plus lointaine.
Elle certifie aussi les Boeing.
Alors, on va y revenir. Sa première tâche, c'est de certifier les Airbus, les Dassault et tous les appareils produits en Europe. Elle est située à Cologne, elle est donc assez loin de Toulouse, donc on sent bien quand même qu'il n'y a pas peut-être la même relation de proximité, alors que Boeing a des bureaux partout, et notamment chez les constructeurs. Donc c'est une situation un petit peu différente. Alors ensuite, il y a la question de la certification en Europe d'un appareil certifié aux États-Unis. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les règlements sur lesquels et les normes sur lesquelles sont certifiés les avions sont très harmonisés entre les États-Unis et l'Europe, et il n'y a pratiquement pas de différence. Donc, en gros, on certifie les avions américains sur les mêmes critères que les avions européens, et réciproquement.
Mais alors, l'argument tout à l'heure qui était de dire « Mais non, bien sûr que l'agence fédérale américaine ne va pas transmettre des informations, divulguer des informations essentielles du point de vue industriel », peut-être que pour l'Europe, ça marche moins quand même.
Alors ensuite, il y a des accords entre les autorités, c'est-à-dire que il n'est pas question, par exemple, pour l'agence européenne, de refaire tout le travail de certification qu'ont fait les Américains. Mmh. Donc vous avez un accord qui est remis à jour régulièrement. Il y a tous les ans un point qui est fait sur l'application de cet accord, et donc cet accord vise à ce que les autorités européennes d'un côté ou américaines de l'autre ne recommencent pas tous les essais et toutes les justifications qui ont été faits par les uns par les autres. Voilà, donc ça suppose qu'il y a quand même un certain degré de confiance entre les autorités américaines et les autorités européennes.
Et j'imagine que ça marche dans les deux sens.
Ça marche dans les deux sens.
Pour les appareils Airbus qui vont voler du côté des États-Unis.
Bien sûr. En général, d'ailleurs, les certifications se font dans un temps très court. Quand c'est certifié par la FAA,
ça passe
pratiquement derrière, c'est certifié par l'EASA. Donc, mais il y a aussi un problème de confiance, comme dit Jean-Paul Troidec, c'est Regardez sur les blacklists, les compagnies blacklistées, on fait confiance aux administrations locales, dans les pays de l'Est par exemple, certains pays de l'Est ou en Afrique, en disant bon ben on va demander, parce qu'on peut pas le faire nous-mêmes, souvent un audit d'une compagnie aérienne, et on s'appuie sur l'administration locale, et elle est pas toujours fiable. Donc, il y a un degré de confiance qui est variable en fonction du pays.
Alors, vous nous dites, Jean-Paul Troidec, qu'il y a une vraie coopération entre les États-Unis et l'Europe, et que d'une certaine manière, ce qui est certifié aux États-Unis est certifié en Europe et vice-versa. Et d'une certaine manière, on a un peu les mêmes manières de faire. Sauf que, alors moi, en préparant cette émission, j'étais un peu étonné parce que j'ai vu qu'il y a un Boeing 737 MAX qui atterrit la semaine dernière à l'aéroport Paris-Vatry, alors même qu'il avait été refusé de vol dans l'espace aérien allemand. Donc là, il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Comment se fait-il qu'un 737 MAX interdit de vol aux États-Unis puisse voler en Europe, et comment se fait-il que l'Allemagne puisse l'interdire et que nous l'accueillons ? Alors là, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Alors, ce que j'évoquais, ce sont les règles de certification initiale des appareils.
Oui.
Ensuite, vous avez la question de l'autorisation de vol. Et là, chaque État est souverain. C'est-à-dire que si la France veut interdire ou l'Allemagne le survol de son territoire par un avion, même qui a été certifié, elle peut le faire. Elle a le droit de le faire.
Même si l'Agence européenne de la sécurité aérienne a dit oui, on laisse voler.
Alors, en l'occurrence, le vol en question, c'était pas un vol commercial. C'était un vol de mise en place, de repositionnement pour des questions techniques.
Donc, sans passagers.
Sans passagers. Donc, l'Eurocontrol avait autorisé ce vol. Je suppose qu'il l'avait fait après l'accord normalement des pays survolés. Sauf que, en l'occurrence, l'Allemagne n'a pas donné l'autorisation. Ce qu'a fait la France, à ma connaissance, c'est simplement d'avoir accepté que cet appareil se pose à Vatry. Bon, alors Vatry, je vous rappelle, hein, c'est un aéroport relativement isolé dans la campagne où il y a très peu de trafic et uniquement du trafic de fret. Donc, je veux dire, les conditions de sécurité, c'était pas se poser à Roissy. Mais c'était l'autorisation apportée uniquement sur l'atterrissage de l'avion. Alors, est-ce que cet avion, entre-temps, est reparti ? Ça, je ne sais pas. Mais c'est une autorisation qui est très limitée et qui ne remet pas en cause l'interdiction général d'utiliser cet avion pour des vols commerciaux.
En l'occurrence, c'est une compagnie norvégienne. Tout ça est normal.
Il peut y avoir des points de désaccord entre l'EASA et la FAA, par exemple.
Et la France et l'Allemagne. Parce que ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on se disait, oui, il y a un ciel européen, on est parfaitement intégré sur la question de l'aviation, on est un et un seul, mais non.
Oui, comme dit Jean-Paul Troidec, franchement, c'est marginal. On a autorisé une mise en place et on a estimé que les conditions de sécurité, sans passagers à bord, étaient remplies. Donc ça remet pas
c'est
en
pas
cause le reste. Non, à mon avis, c'est pas trop un sujet.
Sauf quand même que chaque pays est souverain et peut décider qu'un avion vole ou pas son espace aérien.
Absolument.
C'est quand même un point important.
C'est vrai. Les Chinois ont déclenché d'ailleurs... suite au deuxième accident, l'Éthiopienne a déclenché les premiers en disant « nous, on cloue les avions au sol », et les autres ont suivi rapidement derrière. Il y a des points de divergence. Par exemple, l'EASA a été la première à dire « il nous faut des simulateurs avec des formations spécifiques pour les pilotes ». La FAA n'était pas d'accord en disant « non, c'est pas la peine, on va marcher par différence ». C'est-à-dire, on appelle ça le CCQ dans le langage aéronautique, c'est le cross-crew qualification. Vous faites un entraînement sur un avion classique, un ancien 737, pas Max, et on vous dit sur le Max, c'est différent, voilà ce qui est différent. On marche par différence. L'EASA n'était pas tout à fait d'accord avec ce système.
Tout dernier point peut-être sur les conséquences possibles en matière économique et industrielle. Pour Boeing, ce 737 MAX, c'est évidemment un appareil extrêmement important qui est en concurrence directe avec la 320. Jusqu'où est-ce que ce double accident pourrait avoir un impact sur l'industrie aéronautique américaine, sur l'avenir du 737 MAX, Jean-Paul Le Tronec?
À ce stade, c'est difficile à dire. Première question, c'est quand cet appareil va être remis en service, et une fois qu'il sera remis en service, parce que je pense que ça va arriver, quel sera le degré de confiance des compagnies aériennes et des passagers. Donc ça va conditionner l'avenir de cet appareil. Actuellement, il est commandé, je crois, à quelque chose comme 5000 exemplaires. Est-ce que ces 5000 commandes vont être maintenues?
Est-ce qu'une
partie d'entre elles vont être annulées? Donc ça va conditionner l'avenir de cet appareil. Il est vraisemblable que, de toute façon, Boeing sera amené assez rapidement à proposer un appareil totalement nouveau dans cette gamme.
Je crois que l'ennemi premier, c'est le temps. il fallait concurrencer le Airbus rapidement. Airbus avait pris un temps d'avance hein, pour faire sa gamme de Neo, et donc il fallait proposer rapidement avec les mêmes moteurs, hein, je signale. Et donc ils ont peut-être été un petit peu vite. Et c'est les financiers qui ont finalement décidé. Quoi.
Alors évidemment, Boeing n'est pas le seul à connaître quelques déboires. Retour 10 ans en arrière, 2h14min28s, le 1er juin 2009, pardon, le vol AF447 Rio-Paris disparaît dans l'Atlantique.
Bonsoir, un seul titre dans l'actualité ce soir, la disparition d'un Airbus d'Air France dans l'Atlantique Sud avec 228 personnes à bord.
À toutes les personnes attendant l'arrivée du vol Air France 447 en provenance de Rio, de bien vouloir se présenter au comptoir d'information Air France.
Aux environs de 4h15 heure de Paris, un certain nombre de messages automatiques de maintenance sont émis par l'appareil pour indiquer la défaillance de plusieurs composants. À l'évidence, une situation inattendue se produit à bord de l'appareil.
Voilà, on entendait à l'instant Pierre-Henri Gourjon, à l'époque directeur général d'Air France. Jean-Paul Troadec, pardon, vous étiez à l'époque le directeur du bureau d'enquête et d'analyse. Il y avait eu un certain nombre d'enquêtes ouvertes. D'abord, une enquête par le parquet de Paris, une enquête évidemment par le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile que vous dirigiez. 10 ans après, où est-ce qu'on en est? Il y avait plusieurs enquêtes pour la... à la fois sur les compagnies, sur l'avionneur. Est-ce qu'on a pu, là, aujourd'hui, établir, 10 ans après, les responsabilités des uns et des autres? Où est-ce qu'on en est?
Alors, il y a eu 2 enquêtes, effectivement. La première enquête, celle qui s'est conclue le plus tôt, c'est celle du BEA. Alors, il a fallu attendre quand même qu'on retrouve l'épave et qu'on puisse lire les enregistreurs pour avoir un détail des circonstances de l'appareil. Deux ans de recherche en mer, ensuite 1 an pour la publication du rapport, et donc c'est en juillet 2012 que le rapport du BEA a été publié. Le rapport du BEA décrit d'une façon très détaillée les circonstances de l'accident, il l'explique et il fait un certain nombre de recommandations, quelques dizaines de recommandations pour éviter que ce type d'accident se reproduise.
Vous nous rappelez les grandes conclusions du rapport?
Alors, en gros, il y en a 4, si vous voulez. Tout d'abord, sur les circonstances, on sait qu'il y a eu une obstruction d'une sonde de vitesse qui a entraîné la déconnexion du pilote automatique. Et cette déconnexion du pilote automatique a été une surprise pour les deux pilotes qui étaient à ce moment-là aux commandes de l'avion, et leur réaction a conduit l'avion en montée à une réduction de vitesse qui l'a amené au décrochage. Alors ce qui est assez glaçant finalement, c'est que les pilotes n'ont pas compris ce qui se passait, n'ont pas compris que l'avion était rentré dans une phase de décrochage, et ils ne croyaient pas leurs instruments. Ils ont été aussi submergés par un certain nombre d'alarmes qui sont produites à la planche de bord. Alors, les recommandations du BEA, en gros, elles portent sur quatre points essentiels. Le premier, c'est évidemment l'amélioration de cette sonde de vitesse, de façon à ce qu'elle...
Les fameuses sondes Pitot.
Qui ont été donc obstruées par des cristaux de glace, probablement problème de dégivrage, etc. Donc, elles ont été changées, évidemment, tout de suite, mais en plus, on s'est efforcé d'améliorer leur conception même. Ensuite, il y a eu toutes les questions de formation des pilotes, leur réaction à des événements imprévus, leur réaction, bien entendu, aussi à la conduite à tenir dans des phases de perte du pilote automatique, la composition des équipages, etc. Donc ça, ce sont des mesures qui ont été mises en œuvre par toutes les compagnies aériennes qui ont des programmes de formation adaptés à ces circonstances. Un certain nombre de recommandations également sur la recherche. Bien entendu, il a fallu 2 ans pour retrouver cet appareil. Et donc l'amélioration des moyens de recherche en mer, et aussi, bien entendu, ce qui y contribue, c'est la transmission automatique des positions des avions. Enfin voilà, donc toutes ces leçons sont aujourd'hui en très bonne voie d'être mises en œuvre. Et donc... On peut considérer que du point de vue de l'enquête de sécurité, les choses aujourd'hui sont parfaitement claires depuis maintenant 7 ans. Alors, en même temps, s'est poursuivie une enquête judiciaire qui part finalement des mêmes événements, mais qui cherche à déterminer des responsabilités, voire des culpabilités. Alors, cette enquête, elle a été conclue seulement il y a à peu près, il y a quelques mois seulement, parce que il y a eu des expertises, des contre-expertises à la demande des parties civiles, et tout ça finalement pour aboutir aux conclusions du BEA d'il y a 7 ans. Hein. Donc, il y a vraiment pas grand-chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on peut en déduire des notions de responsabilité ou culpabilité? Ça, c'est pas, c'est quelque chose sur lequel je ne pourrais pas me prononcer, mais aujourd'hui, on est à l'issue de cette enquête judiciaire, et donc 10 ans après l'accident, eh bien, il n'y a toujours pas eu de détermination des responsabilités et du culpabilité du point de vue de l'enquête judiciaire.
Gérard Felzer, 10 ans après, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a tiré les leçons de ce drame du Rio Paris? Et en particulier, oui. Je reviendrai peut-être un tout petit instant sur la question des sondes pitot qui posait en réalité problème depuis des mois, on le savait. Et il y a quand même une question qui se pose, qui est celle de comment se fait-il qu'on a dû attendre un accident comme celui-ci pour avoir ce changement de sonde? Et est-ce que, d'une certaine manière, les dispositifs qui étaient en place à l'époque ont changé? Et est-ce que ce genre de choses, aujourd'hui, si on détecte un problème sur un dispositif, on le change et on met surtout, on laisse l'avion au sol pour éviter que ce type de drame arrive? Gérard Felzer, pardon.
En fait, moi je connais assez bien cet avion parce que j'étais commandant de bord mais instructeur sur cet avion, donc j'ai eu des pilotes et dont un des pilotes en instruction sur simulateur. La question qu'on se pose, est-ce que je m'en serais sorti si ça m'était arrivé? Donc c'était pas du tout évident. Avec cette multiplication d'alarmes qui ont été revues depuis, hein, où le pilote automatique se croyait à l'atterrissage dès qu'on faisait la bonne procédure, c'est-à-dire reprendre de la vitesse à l'avion en le mettant à piquer, ben les alarmes se redéclenchaient alors que ça aurait dû être l'inverse, etc. Donc je rentre pas dans les détails, ça a été résolu. Il y a trois cibles dans les culpabilités ou dans les responsabilités, c'est la compagnie Air France, le constructeur et aussi la DGAC qui a approuvé le programme de formation. Donc, est-ce qu'on avait intérêt à retrouver l'épave et retrouver les boîtes noires? C'était pas du tout évident. Et là, un coup de chapeau à la fois à la DGAC et au BEA qui ont insisté parce que 2 ans et dépensé une véritable fortune pour faire la vérité, ben là moi je dis chapeau, il fallait le faire et ça nous a servi justement à améliorer les choses. Maintenant, est-ce que les recommandations ont été suivies? Moi j'avais recommandé à l'époque, en toute modestie, de transmettre au moins des informations, pas toutes les informations des boîtes noires, mais au moins les sauvegarder par satellite, qu'on n'ait pas à attendre 2 ans, voire attendre l'éternité, comme on le voit pour le Boeing 777 qui a disparu, qu'on n'a jamais retrouvé. Pourquoi? Parce qu'en effet, on a besoin de savoir si on doit arrêter les avions jusqu'à ce qu'on connaisse la vérité. Alors regardez, pour le Boeing 777, on n'a jamais retrouvé l'avion, jamais retrouvé les boîtes noires et on n'a jamais su ce qui s'est passé. Et donc arrêter tous les Boeing en attendant qu'on trouve ou qu'on trouvera jamais ces boîtes noires, c'est pas évident.
Sur la question de la formation des pilotes, Jean-Paul Troadec, il y a un certain nombre de familles de victimes qui mettent en cause la responsabilité justement des pilotes. Selon, je crois, le premier rapport du BEA, le assez jeune copilote, à l'époque 32 ans, qui avait pris le manche en l'absence du commandant de bord qui était parti se reposer, n'aurait pas dû prendre, c'est ce que dit le premier rapport, visiblement les commandes, parce qu'il n'avait pas les qualifications complètes pour ça. Et dans un rapport suivant, il est indiqué précisément que cette qualification a été finalement validée. Il y a des familles de victimes qui ont des interrogations sur ce changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le copilote avait-il, oui ou non, la formation nécessaire pour prendre les commandes en l'absence du commandant de bord?
Oui, je pense que, enfin, je ne me rappelle plus cette modification de la version du rapport du BEA, mais en tout cas, le BEA n'a pas mis du tout en évidence un problème de qualification des équipages. Alors, que les équipages aient ou pas bien réagi, ça c'est une autre question. Ils ont été dans des circonstances, comme je pense l'a dit Gérard à l'instant, difficiles, dans lesquelles on n'est pas du tout évident que un équipage, j'allais dire normal, aurait réagi différemment. Donc, je crois qu'on peut pas mettre en lumière, de ce point de vue-là, un défaut de la part de la compagnie aérienne. Ce qui est apparu quand même, c'est sans doute que d'abord, il y avait une question de formation théorique des équipages. Bon, l'enseignement de l'aérodynamique a peut-être été un peu un peu déficient, et puis surtout leur entraînement a des procédures tout à fait particulières. Normalement, il y avait une procédure qui permettait de s'en sortir, mais il semblerait que cette procédure n'ait pas été enseigné sur simulateur en conditions réelles.
Jean-Paul Troidec, je vais aller droit au but et vous dire ce qu'il y a derrière très concrètement cette critique-là. Il y a cette idée que le BEA peut-être aurait davantage insisté sur la défaillance humaine et peut-être moins sur la défaillance technique. C'est en gros la critique qu'un certain nombre de familles de victimes portent avec cette attaque précise. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Est-ce que le BEA aurait plutôt eu tendance à insister sur les problèmes de formation et de pilote et donc sur la compagnie plutôt que sur l'avionneur?
Je recommande à ces personnes de lire.
Je pose la question.
Je leur recommande de lire le rapport du BEA. Et le rapport du BEA, il détaille l'ensemble des éléments qui portent sur la formation des équipages, sur leur réaction, sur les problèmes d'alarme, sur un certain nombre d'améliorations à apporter au fonctionnement des avions. Non, je pense que tout a été dit. Maintenant, après ça, vous pouvez avoir une lecture plus ou moins orientée d'un rapport qui fait plusieurs centaines de pages.
Oui, ça a permis aussi. Il y en aura pour tout le monde. Monde, comme disait Coluche, je suis désolé de. Mais c'est vrai que le BEA n'a pas eu, me semble-t-il, il a eu des pressions, mais ça Jean-Paul Troidec pourra le dire, des pressions et des constructeurs, des compagnies, etc. Parce que chacun essaye de se repasser la patate chaude. Et le rapport, il est complet. Il concerne absolument tout le monde. Enfin, c'est ce que moi j'en ai lu en tous les cas et qui est assez. La leçon de ça, c'est que la recommandation, me semble-t-il, c'est revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, on raccourcit les formations de pilotes leur apprendre ou leur réapprendre, même sur avion léger, ce qu'est un décrochage, c'est peut-être pas complètement idiot. Quoi.
Jean-Paul Troidec, c'était quoi ces pressions? Comment ça s'illustrait?
Alors, d'abord, il n'y a pas eu de pression du style coup de fil du directeur général d'Air France à Jean-Paul Troidec pour dire « tu vas mettre telle chose dans ton
rapport ». Quelle forme ça prend?
Ça prend une forme médiatique, essentiellement. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à une bataille de communication de la part du constructeur, de la part de la compagnie aérienne, de la part des syndicats de pilotes, chacun d'entre eux essayant de, en quelque sorte, de mettre l'opinion publique dans son camp. Mais c'est ça, les pressions. Donc, je veux dire, ces pressions, je peux vous dire que le directeur du BEA, il était totalement indifférent.
Jean-Paul Troidec, justement, le directeur du BEA, à l'époque, Gérard Felzer, vous êtes nos invités ce matin, on parle des crashs de la sécurité aérienne dans une série consacrée à l'aviation.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va s'intéresser maintenant à la question du droit. Que prévoit le droit en cas d'accident? Les recours pour les familles de victimes? Comment et par qui sont-elles indemnisées? Bonjour Serge Conti.
Oui, bonjour monsieur.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat spécialiste du droit aérien. D'abord, on va commencer avec la base. L'indemnisation des victimes, elle est réglementée par la Convention de Varsovie qui a ensuite été remplacée par la Convention de Montréal. Il y a un texte original de 1929 qui a été régulièrement amendé, 1955, 61, 71, 75. Vous nous expliquez en très gros, à grands traits ce que prévoit le texte et en particulier sur l'indemnisation des familles de victimes.
Tout à fait. Je complète avec le fait qu'il y a un règlement européen qui a été pris et qui a complété la Convention de Montréal. Alors les grandes lignes sont les suivantes. C'est que en fonction de l'article 17 de la Convention de Montréal, vous avez une indemnisation automatique, quoi qu'il arrive, quelles que soient les responsabilités, de 100 000 DTS. DTS sont des droits de tirage spéciaux, c'est une monnaie technique internationale qui équivaut à 1,23 euros. Actuellement, donc, il y a 113 000 euros qui sont accordés automatiquement, quoi qu'il arrive, ce qui fait grosso modo 138 000 euros. Au-dessus de 113 000 euros, se pose la question de l'indemnisation complète, totale, des victimes. Et là, il y a le droit, il y a la pratique du droit. En droit, le transporteur a la faculté de s'exonérer de la responsabilité. Mais en réalité, il aura beaucoup de mal, il faut qu'il démontre que le dommage, l'accident n'est pas lu à sa faute, à sa négligence, ou à des fautes commises par des tiers. Pratiquement, aucun tribunal ne retient cette faculté, puisqu'on analyse la défense de la compagnie à la lumière de la force majeure, événement imprévisible, irrésistible, insurmontable. Pendant l'accident, par exemple, du Concorde, l'accident n'a pas eu lieu du fait d'une faute de pilotage, mais d'un élément extérieur à l'avion, et ben, il y a une indemnisation complète de toutes les victimes, si vous voulez. Les compagnies d'assurance négociant par la suite ensuite le recours récursoire contre les vrais responsables. Voilà, si vous voulez, la grande ligne, c'est, on peut le dire aujourd'hui, une indemnisation complète des conséquences d'un accident, surtout pour les ayants droit.
Avec un plafond à 113, 114 000 euros. Alors il y a quelque chose que je veux comprendre, Serge Conti, c'est qu'il y a quelques jours, des avocats américains d'une famille française qui a perdu un proche dans le crash du Boeing de l'Ethiopian Airlines a fait une conférence de presse dans laquelle elle demande 250 millions de dollars. Comment comprendre ce montant? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et est-ce qu'elle a une chance de l'obtenir?
Alors, vous évoquez, il faut savoir qui est poursuivi. Parce que si vous évoquez la question...
C'est le constructeur, en l'occurrence.
Ah voilà, c'est le punitive dommage, ou là qui sont une espèce d'amende civile, ou là, mais ce qui est tout à fait différent de la Convention de Varsovie et de Montréal, qui indemnise uniquement les fautes ou là c'était du transporteur. On n'est pas dans le constructeur. C'est ce qui explique la différence. Au niveau des indemnisations, les États-Unis sont pas beaucoup plus généreux que les tribunaux français, qui vont appliquer en fait l'indemnisation comme tout accident, même de circulation, un accident classique avec les dommages intérêts, le préjudice moral, le préjudice économique, le préjudice financier, etc. Si vous voulez, je tiens à corriger ce que l'idée que vous avez évoquée à l'instant, on est bien d'accord qu'au-dessus de 100 000 euros, il y a une liberté de démonstration de la preuve ou de la faute, mais en réalité, de facto, il y a une indemnisation complète de la totalité des préjudices subis par les victimes ou les ayants droit des victimes.
Mais je reviens sur cette demande de 250 millions de dollars, effectivement, contre le constructeur. Est-ce que ça veut dire que, en réalité, quand on va sur la juridiction, en l'occurrence celle des États-Unis, on a plus de chances, enfin, en tout cas, il est préférable pour les victimes, évidemment, de se tourner vers la juridiction américaine?
Alors, là, vous posez un problème très classique de ce qu'on appelle le forum shopping, où les victimes vont avoir le choix entre différentes juridictions pour aller dans les plus rentables. En réalité, c'est vrai que le droit français, lui, répond à la règle suivante, principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit et sans enrichissement. Donc c'est simple, alors que les États-Unis vont accorder des sommes d'argent qui sont sans aucune raison, sans aucune correspondance avec la réalité du dommage. Alors c'est vrai que pour les punitive damage, les États-Unis vont être extrêmement généreux, on peut avoir des dommages intérêts considérables, mais pour le traditionnel, c'est-à-dire l'action en dommages intérêts à l'encontre du transporteur uniquement, il n'y aura pas davantage qu'en France. Pas davantage qu'en France. C'est uniquement lié, en fait, aux dommages intérêts liés au constructeur.
Alors, justement, sur le constructeur eux-mêmes, et puis allons au-delà, justement, de l'indemnisation des victimes, parce qu'il y a quelques jours, un certain nombre de compagnies chinoises ont demandé des indemnités à Boeing, consécutivement, justement, à ces récentes catastrophes aériennes. Il y a un responsable d'Air China qui a confirmé avoir déposé une demande d'indemnisation auprès de Boeing. Concrètement, qu'est-ce qu'elle peut en attendre?
Bien écoutez, n'oublions pas que ce qu'on appelle donc les punitive damage, qui sont en fait une amende civile pour des fautes commises par le constructeur dans la conception de l'avion ou dans n'importe quelle gestion technique fautive. Eh bien, il n'est pas totalement évident que les initiateurs de la procédure, les États chinois de la procédure, aient l'intérêt à agir qui nous concerne. Parce qu'en réalité, aux États-Unis, le concept d'intérêt à agir, donc de ceux qui ont le droit de mettre en œuvre une action judiciaire, sont assez limités. La France est beaucoup plus généreuse sur tous les ayants droit possibles, les parents, les enfants, les frères et sœurs, les cousins, etc. Aux États-Unis, c'est très limité aux personnes qui sont concernées par le sinistre. Je ne suis pas certain qu'une autorité aéronautique, fût-elle chinoise, puisse aboutir dans une telle action. Je ne le crois pas. C'est, je crois, davantage une action politique, une action de pression politique, qu'une action efficace en indemnisation. Je je ne pense pas que ça aboutirait.
Il n'y a pas des choses qui sont prévues dans les contrats au moment de l'achat des appareils,
Jean-Paul Lautre? Vous quittez le domaine légal, de la convention de Varsovie, de Montréal et toutes les autres conventions, pour parler, pour rentrer dans le cadre du contrat.
Ouais.
Vous avez des conventions qui peuvent être passées entre toute partie, quelle qu'elle soit, intéressée au dossier, avec des indemnités conventionnelles qui vont dépasser complètement ce que la loi accorde. Mmh. Ça, c'est du contrat. Donc, autant d'indemnisation que de contrat possible. Et donc, on peut pas répondre de façon générale, car c'est propre à chaque...
C'est au cas par cas. Ça dépend des contrats. Je vais faire réagir nos invités ici, en plateau, Jean-Paul Troadec, sur la question de l'indemnisation des victimes, mais aussi peut-être sur les contrats qui prévoient ou pas des formes d'indemnisation. Est-ce que les compagnies chinoises ont la moindre chance d'obtenir quelques millions de la part de Boeing, ou est-ce que c'est juste une opération politique pour déstabiliser le géant américain ?
Alors là, on sort totalement de mon domaine de compétence, mais je pense qu'effectivement, la plupart des compagnies aériennes, lorsqu'elles achètent un avion, dans le contrat, il y a un certain nombre de clauses qui prévoient ce qui se passe si l'avion, par exemple, est arrêté de vol pour des questions par les autorités aériennes. Alors, je ne sais pas du tout ce que Boeing accepte de mettre dans ses contrats. Il est très possible qu'effectivement les compagnies aériennes puissent réclamer, en tout cas à Boeing, des indemnisations pour compenser les pertes d'exploitation, le fait d'avoir alloué d'autres appareils parce que l'avion est arrêté.
Jean-Fenzer.
Il y a aussi le problème de savoir qui est propriétaire de l'avion. On a vu par exemple l'accident d'Air Algérie, c'était une compagnie espagnole qui avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément bien déclarées. Donc il y a une enquête à chaque fois, c'est un petit peu comme la marine. Il y a des pavillons de complaisance et là il y a des contrats qui sont faits entre un affréteur. L'avion est loué en wet lease ou pas wet lease, ça veut dire avec les équipages ou sans les équipages. Donc les responsabilités se diluent un petit peu, et ça devient un petit peu compliqué. Là, on est dans le juridique et dans les accords internationaux.
Justement, quand les responsabilités sont diluées, ça sera ma dernière question, Serge Conti, il y a quand même un objet qui est quand même assez...
La Convention de Montréal est extrêmement claire dessus, et elle incrimine aussi bien le transporteur que le mandataire du transporteur. Parce qu'on sait bien qu'il y a des délégations de vol, et dans ce cas-là, la Convention de Montréal prévoit l'indemnisation par l'un et par l'autre, ou par l'un ou par l'autre.
Serge Conti, Serge Conti, peut-être, sur justement la question des responsabilités, les procès justement permettent peut-être d'évaluer, d'établir les responsabilités des différents acteurs. Il se trouve que les familles des victimes du Rio Paris voulaient qu'il y ait un procès, il n'a toujours pas eu lieu. Est-ce que ce n'est pas regrettable pour justement établir les responsabilités des uns et des autres et éventuellement derrière ensuite opérer ces indemnisations ?
Écoutez, il faut savoir que pratiquement à 80-90%, l'indemnisation est opérée à l'amiable par les compagnies aériennes, donc qui négocient directement avec les victimes ou les fédérations de défense des victimes. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'éviter une très très longue procédure. Ensuite, faut savoir que le procès pénal dure extrêmement longtemps et va souvent paralyser l'indemnisation. Moi, je suis pas certain que le procès soit une bonne chose pour les parties. Et si on peut l'éviter, c'est beaucoup mieux d'engager une négociation à l'amiable, ce qui se fait dans 90% des cas. Donc la procédure, à part le plaisir d'avoir une condamnation d'un responsable, je ne suis pas certain, d'autant plus que je tiens à préciser que les conventions de Montréal sont telles que seul le juge civil peut indemniser les victimes. Le juge pénal n'a pas la possibilité d'indemniser les victimes. Il faut aller devant le juge civil. Et donc, si vous voulez attendre le procès pénal pour avoir les responsabilités pénales, vous devez ensuite revenir devant le juge civil pour vous faire indemniser, et pour autant que vous ayez suspendu la procédure, puisque vous avez un délai de 2 ans entre le moment où l'avion devait arriver et le moment où le procès est engagé.
Merci donc, beaucoup, Maître Serge Conti. Je rappelle que vous êtes avocat, un spécialiste du droit aérien. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces enjeux.
No navigation system beyond.
Et merci à nos deux invités, Jean-Paul Troadec, Gérard Felzer, de nous avoir accompagnés pour ouvrir cette semaine consacrée à l'aviation. Je rappelle, Jean-Paul Troidec, que vous êtes membre de l'Académie de l'air et de l'espace, qui d'ailleurs va organiser une série de conférences. Ça sera à la fin de l'année. Je pense qu'on doit pouvoir retrouver ça sur le site de l'Académie.
Absolument.
Merci d'avoir été avec nous. Gérard Felzer, je rappelle quand même que vous êtes presque un collègue. Vous avez une émission sur France Info, c'est le samedi à 17h25. Transportez-moi, c'est ça ?
C'est ça.
Transportez-moi à 17h25 sur France Info. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Votre emploi est-il substituable? Et si oui, à quelle échéance? Autrement dit, une machine sera-t-elle capable de faire le boulot pour lequel vous êtes payé aujourd'hui? Et dans combien de temps? Voilà les questions que vous vous posez.
Eh oui, de même qu'au cours du XXe siècle, des machines-outils de plus en plus perfectionnées ont remplacé la main et la force physique des ouvriers, eh ben de nos jours, la numérisation, la robotisation, l'intelligence artificielle permettent à des machines d'accomplir des tâches jusque-là réservées au savoir-faire humain. Pendant longtemps, nous nous sommes bercés d'illusions sur le manque de souplesse, de réactivité, de capacité à prendre des initiatives de ces concurrents non syndiqués et peu revendicatifs, nous remplacés par des vulgaires algorithmes. Allons donc. Ailleurs, on a observé des tentatives dites néoludites, brisons ces machines qui prétendent prendre nos postes de travail. Double aveuglement. Les révolutions industrielles sont toujours passées, elles ont détruit un certain nombre d'emplois, mais elles en ont créé d'autres, et c'est également le cas de celles qui nous arrivent. Alors, la sagesse conventionnelle, celle utilisée notamment par France Stratégie, dans une étude sur le sujet parue il y a 3 ans. Elle estimait que l'industrie serait davantage concernée que les services. 25% des emplois dans le premier cas, 13% seulement dans le second. Or, les hommes étant davantage représentés dans le secteur manufacturier et les femmes dans celui des services, ces dernières semblaient moins concernées. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que prévoit une étude beaucoup plus récente, celle-ci, puisqu'elle a été publiée la semaine dernière par le McKinsey Global Institute, sous le titre « The Future of Women at Work, Transition in the Age of Automation ». Cette étude porte sur l'avenir du travail féminin à l'horizon 2030 et elle se base sur des données recueillies dans les 10 principaux pays de la planète, soit 6 économies développées et 4 en développement, qui représentent à elles 10, donc la moitié de la population mondiale. Première observation. Un pourcentage similaire d'hommes et de femmes sera amené à changer d'emploi dans les 10 années qui viennent, soit entre 7 et 24% des femmes et entre 8 et 28% des hommes. La fourchette, vous me direz, est large. En outre, bonne nouvelle, d'après McKinsey, la demande en job qualifié, donc bien payé, va compenser la destruction en masse d'emplois peu ou médiocrement qualifiés. Dans les économies développées, où les femmes tendent à être légèrement plus diplômées que les hommes, elles seraient donc mieux placées pour les occuper.
Bon, donc avantage pour les femmes, elles pourraient s'attendre à ce que les inégalités de revenus dont elles demeurent victimes se réduisent, Brice.
Eh bien, réponse mitigée des deux responsables de l'étude, à savoir Laura Tyson et Mekala Krishnan. Je cite, je les cite, « Si les femmes peuvent en profiter pour migrer vers de nouveaux jobs, elles maintiendront ou même augmenteront leur part des emplois exercés. Mais si elles ne le peuvent pas, les inégalités entre elles et les hommes, déjà importantes, pourraient s'aggraver. » Deux problèmes qu'on rencontre là. Dans les pays en développement, une proportion importante des femmes travaille encore dans l'agriculture de subsistance et dispose d'un faible niveau de qualification. Mais même dans les pays développés, si les femmes sont légèrement, c'est vrai, plus diplômées que les hommes, ce sont ces derniers qui sont les mieux placés pour occuper les nouveaux jobs de l'économie automatisée, parce qu'ils sont de loin plus nombreux que les femmes à avoir fait des études d'ingénieur. Lorsque les femmes choisissent des filières scientifiques, elles ont tendance à privilégier les sciences naturelles plutôt que les sciences appliquées aux technologies de pointe. Mais en outre, les femmes disposent de moindres possibilités de mutation professionnelle que les hommes. Beaucoup de femmes, en effet, assument le double fardeau d'un emploi rémunéré et des charges ménagères. Et cela réduit le temps dont elles disposent pour recycler leurs compétences et chercher de nouvelles opportunités professionnelles. Du fait de leurs responsabilités familiales, elles sont également moins mobiles géographiquement que les hommes. Enfin, les préjugés sexistes risquent de privilégier les hommes lorsque les employeurs décident de faire bénéficier leurs équipes de formation continue. Alors vous me direz, certains pays comme la Chine ont pris précocement conscience de ces handicaps et les compagnies du numérique comme Alibaba
y ont imaginé là-bas des séances de recyclage spécialement destinées à leurs employés EES. On peut aussi imaginer que les plateformes numériques de formation seront bien utilisées par les femmes. Mais, prévient les auteurs, une action concertée des entreprises et des gouvernements sera nécessaire pour procurer aux femmes les opportunités d'emploi de l'avenir. Sinon, la vague d'automatisation qui vient non seulement reproduira les inégalités qui persistent aujourd'hui, mais elle les aggravera en laissant les femmes de côté.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.